correct. Je m'entends un petit peu, mais c'est correct. Bon, alors, bonjour à tout le monde que je n'ai pas salué, puis à ceux que j'ai déjà salué, ben c'est fait. Ça nous fait plaisir d'être là, toute la famille, encore ce matin. Là, avec des enfants, ils nous volent le show. Donc, c'est correct, je suis là, les enfants sont là, mais nous aussi, Jeanne et moi, on est là ce matin. Cette année, depuis le début de l'année 2024, vous avez eu différents prédicateurs qui sont venus. Jean-Paul est venu, mon beau-père, Jean-Paul est venu, il vous a parlé de Acte 26. Merci, Daniel. Puis, il y a quelques semaines, Thomas est venu. Thomas Moore, qui est un des anciens à Sainte-Foy avec moi, et Jean-Paul, puis il vous a entretenu d'un autre chapitre, qui est Acte 28. Fait que là, sûrement, vous dites, ben ça, à Sainte-Marie, à Sainte-Foy, ils doivent faire tous les chapitres. Ben oui, on les fait tous. Mais on fait Acte 27, c'est moi qui l'avais fait. Puis même si vous savez la conclusion des Actes, vu que Thomas le fait il y a quelques semaines, j'avais à cœur de vous partager quand même sur Acte 27. Donc, vous savez qu'ils ne vont pas faire d'offrage, puis que... ils vont survivre, puis ils vont être dans une petite île, vous savez, ces choses-là, parce que vous l'avez entendu, mais on va voir comment que ils se sont rendus de Césarée, où est-ce que Paul était dans Acte 26, puis se rend jusqu'au naufrage, puis la suite dans Acte 28. Donc, on va voir Acte 27 ce matin, qui est un long chapitre. Merci Mario, à tous les efforts que tu as fait pour réussir à faire marcher Zoom ce matin, pour que vous ayez un écran qui fonctionne. Donc, on va lire le texte ensemble. Puis, c'est un long texte, donc je vais prendre une gorgée d'eau avant de débuter. Puis après ça, on va lire le texte, puis on va regarder ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager sur ce texte-là. Donc, Acte 27, faisons la lecture ensemble. Ça nous dit, « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien et de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport. Plein de noms difficiles, puis Beauport. près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais, ayant aperçu un golfe et une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent le voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. L'histoire finit bien. Un long texte, une longue épopée en mer qui se termine bien. Évidemment, c'est un long texte, comme j'ai mentionné. À long passage, on va focusser sur... Vous mettre l'attention sur certains points en particulier au détriment de d'autres. Avant de débuter, je vais vous faire une confession. Je suis pas marin du tout. J'ai aucune expérience. La seule expérience que j'ai sur un bateau, c'est un canot, une belle journée ensoleillée. Je n'ai pas beaucoup de risques de danger. Là. Donc, l'agrès du navire ou la voile d'Artimon, J'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce qu'il y en a ici qui savent? C'est quel auteur, Brass? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je ne vais pas vous informer de ces choses-là. Voyons dans le texte qu'on a lu, quand que ces choses-là, des manœuvres des marins pour contrôler le navire, pour essayer d'améliorer les choses, mais on ne va pas s'attarder à ces choses-là, parce que je ne suis pas un expert. Vous parlerez à André qui a bateau, donc il pourra vous expliquer qu'est-ce que c'est, quelles sont les manœuvres. Donc, mais moi, je ne le sais pas. Mais c'est un texte intéressant. Puis pourquoi ce texte-là se trouve avec autant de détails dans la parole de Dieu? Pourquoi que la parole de Dieu, Dieu a voulu qu'il y ait autant de détails? C'est un texte, c'est ici la carte que vous avez, elle n'est pas la même couleur sur mon écran, mais c'est pas grave. La carte que vous avez ici, on voit grossièrement le voyage, la ligne verte là, en mer, le voyage du bateau jusqu'à l'île de Malte où ils vont s'échouer. Puis là, il y a quelques lignes pour qu'ils vont se rendre jusqu'à Rome, qui est le chapitre 28, mais on voit grossièrement ce qui se passe. Pourquoi il aurait pu simplement dire Luc, parce que le texte est au nous, parce que Luc, il était sur le bateau. Luc aurait pu dire, bon, on est parti de Césarée, puis on s'est rendu, la navigation était difficile, puis on a échoué à l'île de Malte. C'est ça qui est arrivé. Puis pourtant, on a beaucoup, beaucoup de détails qui sont donnés. Pourquoi que vous pensez qu'il y a autant de détails qui sont donnés dans le texte qu'on regarde? Pour quelle raison, pour qui, pourquoi il y a autant de détails? Il y a 276 personnes sur le bateau qu'on a lu, mais il y en a une qui nous intéresse un peu plus, qui est l'apôtre Paul. Puis à travers cette épopée-là, cette aventure-là, l'apôtre Paul va se démarquer à travers les bons et surtout les moins bons côtés de la navigation. Il va se démarquer, il va se mettre en évidence, il va se manifester comme un homme de foi, un homme de Dieu, puis on va voir comment il va faire. Donc, il y a à peu près 4 occasions où ce que Paul va se démarquer dans le texte que j'ai relevé, que vous voyez des petits points qui ont apparu sur mon écran sont rouges, mais vous, sont un petit peu plus foncés. Donc, on va regarder ces 4 situations-là, puis on va voir comment Paul se démarque sur le voyage. Ces 4 points-là, donc, c'est les 4 divisions qu'on a du texte. Donc, Paul est un homme de confiance, on va le voir au début du voyage, Paul qui est un conseiller, Paul qui est un homme de foi. Quand la situation paraît désespérée, Paul se manifeste comme un homme de foi. Paul, un homme désintéressé, donc il pense aux autres. On va le voir, puis enfin, on va voir des applications pour nous en 2024. Donc, ça vous va? Allons-y, avant d'aller plus loin, on va prier pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, merci pour ce texte que tu places devant nous, ce long texte de naufrage, mais un texte où ce qu'on voit Paul qui se démarque. Puis Seigneur, il y a certainement des choses que tu veux nous apprendre, nous montrer dans l'étude de ce passage. Donc, on se place devant toi, on prie de nous rendre attentifs à ta parole, on prie de faire en sorte que ce soit toi qui parle, ta parole qui parle, puis que tu nous montres des choses, puis que ça nous puisse nous faire grandir, puis que ça soit utile pour chacune de nos vies. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, allons-y, premier point, Paul, un homme de confiance. Donc, on est au début du voyage, il partait de Césarée, donc Paul, il vient d'avoir, se mettre en contexte, il vient de se présenter devant le roi Agrippa, puis il va donner son témoignage, puis après ça, il en avait appelé à César. Festus et Agrippa sont d'accord que Paul n'est pas coupable, mais étant donné qu'il en avait déjà appelé à César, il doit partir, donc il embarque dans le bateau. Il y a plusieurs personnes qui embarquent dans le bateau pour ce voyage-là. Puis déjà, dès le début du voyage, Paul se manifeste comme un homme de confiance. Bon, si on regarde le texte, ça dit « Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. » Donc, on est au verset 3. On est juste, Simon, ça répond juste ici. Donc, si vous voyez, un changement de couleur, merci. On est juste ici. Donc, on partait de Césarée, puis on a fait juste un premier arrêt au puits, si on veut, un petit arrêt qu'ils vont faire tout de suite à Sidon. Puis dès cet arrêt-là, qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est que Julius, qui est un centurion, il traitait Paul avec bienveillance. Julius traite Paul d'une belle façon. Pour une raison, qui est quand même remarquable, mais je n'ai pas d'explication. Ça arrive très souvent dans le Nouveau Testament que les centurions, ils ont une. Les centurions, en général, c'est positif, là. Il y a quelques centurions qui le font, centenier. Puis ici, le centenier, on le voit, là, il ne traite pas le bien. Et quel autre endroit? Est-ce que vous avez d'autres endroits dans le Nouveau Testament où est-ce que vous voyez un centenier qui traite bien les chrétiens ou qui traite bien le Seigneur Jésus? Corneille! Corneille, qui est un homme pieux, puis finalement, Dieu va se révéler à lui, puis lui et toute sa famille vont se convertir. Donc, c'est un bel exemple. Le Seigneur Jésus, quand il va... il y a un centenier qui va se présenter devant lui avec son serviteur qui est malade. Le centenier, il va envoyer des serviteurs pour lui demander d'aller guérir son serviteur, puis il dit, « Je suis pas digne que tu entres sous mon toit, puis le Seigneur va être touché de la foi de cet homme. » Donc, ça arrive quand même à l'occasion que des centeniers ont bonne presse, je dirais, puis c'est le cas ici également. Donc, il traite Paul avec bienveillance. C'est un prisonnier, il n'était pas obligé de le faire, mais il le traite très bien, au point qu'il va lui permettre d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Donc, c'est comme Paul est un prisonnier, part en bateau, pas le premier arrêt. Tu connais des gens ici, tu peux aller les voir, leur rendre visite, te faire soigner, puis tu reviendras après. C'est quand même étonnant qu'ils permettent à un prisonnier de faire ça. Puis, tu sais, Paul aurait techniquement bien pu dire, « OK, je vais y aller, mais tu ne me reverras pas. » En lui-même, mais c'est pas ça qui se passe. Paul est un homme de confiance, puis il se comporte bien. Puis c'est un risque, d'une certaine façon, que Julius prend en faisant ça. Un commentaire de MacArthur, mais c'est surtout la première partie. Si un Romain perdait un prisonnier, il payait lui-même la peine du prisonnier. Donc, si Paul avait décidé de pas revenir, bien, Julius était responsable, puis il y avait des conséquences pour lui. Mais il faisait confiance. Il faisait confiance à Paul. Probablement que, tu sais, parce qu'on est au tout début du voyage, probablement que Festus lui avait dit, cet homme-là, Paul, n'est pas coupable, puis fais-toi en pas, tu n'auras pas de problème avec lui. Puis déjà, Paul était digne de confiance, puis il fait tout pour garder cette confiance-là. Donc déjà, on voit Paul des qualités morales qui sont évidentes dès le début du voyage. La situation va bien, le voyage débute positivement, mais déjà, Paul manifeste des qualités morales excellentes, puis c'est un homme digne de confiance. Au point qu'on le laisse aller, puis il va revenir, puis il n'y a pas de problème. Donc, déjà une première qualité de Paul au tout début. Ensuite, Paul se manifeste comme étant un conseiller. On avance un petit peu, la navigation repart, donc on part de Sidon. Le texte dit qu'on va longer l'île de Chypre. Donc, l'île qui est juste ici, on va la longer. Puis après ça, on va se rendre à Myra. Mais déjà, on ne va pas aller tous les détails, mais on dit que la navigation se fait lentement. On a déjà l'impression que c'est difficile. Là, on arrête à Myra, qui est un port d'importance à ce moment-là. Ils vont changer de bateau à Myra. C'est un port suffisamment gros. Donc, les prisonniers changent de bateau. Ils repartent. Puis, ils avancent. Puis, le but, c'est d'aller à Cnide. Si on voit verset 7, on atteint la hauteur de Cnide, qui est un port qui est juste, là je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui est à la hauteur à peu près ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Donc l'idée, ce n'est pas de se rendre à Crète, c'est de passer plus proche de l'intérieur des terres, mais le vent, il n'aide pas. Le vent les amène, va dire, bon, ben, on va se laisser aller par l'île d'en bas. Donc c'est ce qu'ils décident de faire, ils vont se laisser aller plus bas, puis ils vont se rendre à Beauport. Donc, ça indique que les vents étaient contraires, ils ne pouvaient pas avancer, donc ils décident d'aller en parallèle avec le vent, si on veut, puis ils vont se rendre jusqu'à Beauport sur l'île de Crète. Donc, ils arrivent à ce lieu-là, à ce port-là, puis là, Paul va intervenir, Paul va donner un conseil, il va m'en parler aux centeniers, aux dirigeants du bateau, aux marins, puis il va leur dire qu'est-ce qu'ils voient. Puis pourquoi qu'il va faire ça? Parce qu'il y a un temps, le texte nous dit qu'il y a un temps assez long qui s'est écoulé, la navigation devenait dangereuse, car, ça dit, l'époque même du jeûne était passée. De quel jeûne on parle ici? On parle du Yom Kippour, qui est un jeûne juif, qui est fin septembre, début octobre. Donc, le temps à cette période-là, donc on sait qu'on est dans cette période-là. Puis, le jeûne était passé, puis à partir du mois de novembre, la navigation est impossible. Donc, ça devient tard pour faire de la navigation sur la Méditerranée. Donc, ça devient un peu inquiétant. Donc, Paul, il voit ça, puis là, il va leur parler. Il va faire un avertissement, puis il dit, « Je vois, là on est un petit peu plus loin, au verset 10, « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Donc, il mentionne ça, puis c'est intéressant, il commence par, il essaie probablement d'amadouer les marins, et puis il commence par la cargaison. Ça va, il va y avoir des dommages pour la cargaison, ça pourrait être problématique, puis après ça, en passant les personnes aussi, ça pourrait être difficile. Donc, essaye de convaincre les gens de le faire. Puis l'expression qu'elle dit, « Je vois que la navigation », dans le grec, c'est un mot qui est basé sur son expérience. Est-ce que Paul avait de l'expérience en mer? Il en avait-tu? Vous avez une chance sur deux. Il y en avait un peu. Il y en avait certainement un peu. Dans 2 Corinthiens, il mentionne les tribulations qu'il a vécues à travers son ministère. Puis il mentionne différentes tribulations qu'il a. Il mentionne 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai débattu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Donc, j'ai fait 3 fois naufrage. Si mettons, je pense pas qu'on peut le compter comme un, mais si mettons on le compte comme un, il reste 2 autres fois, donc il a été en situation de naufrage. Il a fait du bateau, puis ça l'a pas toujours bien été. Il a dit, j'ai été en péril, je vais juste lire des extraits, il dit, j'ai été en péril sur les fleuves, j'ai été en péril plus loin sur la mer. Donc, c'est un missionnaire, il a voyagé par ses voyages, il a une certaine expérience en mer, puis là, il est capable de dire, ben, je pense que c'est dangereux, puis je pense qu'on devrait rester où est-ce qu'on est là, puis éviter d'avoir des dangers. Donc, Paul va être un conseiller, il va le faire gentiment, poliment. Je vous conseille de rester ici, je vous conseille que c'est la bonne chose à faire. Puis est-ce que vous pensez que, ben, on a lu le texte ensemble, est-ce que Paul est écouté? Non. Les marins, les gens d'expérience, ça dit le patron du navire, le pilote, eux autres se disent on est capable d'avancer, on est bon, on continue. Puis là, il y a plein de raisons qui fait ça. C'est le texte nous dit, le verset 12, comme le port n'était pas bon pour hiverner, donc ils sont à Beauport, mais finalement, c'est pas un si beau port que ça, parce que c'est pas un bel endroit pour hiverner. C'est un endroit qui est pas confortable, les vents sont pas, la direction des vents fait que c'est pas confortable pour hiverner, donc ils vont décider d'aller un peu plus loin puis de partir. Comment vous pensez que Paul réagit quand on n'écoute pas son conseil? Est-ce qu'il dit, oh, bon, c'est fini, je vous ai donné de chance, je voulais être gentil, vous n'avez pas écouté. Non, il va réintervenir plus tard, donc clairement, il a une bonne attitude, même si son conseil n'est pas écouté, même si les gens remettent de côté ce qu'il fait, il va intervenir plus tard, puis il va parler, donc il a une bonne attitude, même si les gens rejettent ses bons conseils à ce moment-là. Donc, Paul s'est avéré comme un conseiller, même s'il n'a pas été écouté, il est un bon conseiller à ce moment-là. Paul, troisième point, qui est le point principal, il s'avère comme un homme de foi. On poursuit. On est au verset 13. Donc, comme on a vu, ils sont à Beauport, puis là, ils veulent partir, parce que le port n'est pas intéressant, ils veulent aller un peu plus loin, d'atteindre Phénix. Donc, ça nous dit qu'il y a un léger vent du sud qui vient à souffler. Le vent du sud, on va regarder la carte, il était à Beauport ici, que vous voyez, puis ils veulent se rendre à Phénix. Phénix, c'est où? C'est au bout d'ici, c'est pas très loin, là. C'est vraiment pas loin. Donc, c'est un tout petit voyage. Le but, c'était pas de se rendre jusqu'à Rome. Le but, c'était de se rendre à cet endroit-là qui était plus confortable pour hiverner. C'est un petit voyage, puis il y a un vent qui venait du sud, qui poussait vers l'île de Crète. Fait que les gens disent, ah, Probablement que les marins disent on a bien fait de partir. On part, on fait. Ils se croient maîtres. Le texte dit qu'ils se croient maîtres de leur dessein ou de leur destin. On est en contrôle, on a un vent favorable, on va longer l'île de Crète, puis on va se rendre à notre destination, puis on va pouvoir avoir on va pouvoir hiverner là puis être confortable. Donc, c'est un peu l'attitude des gens à ce moment-là. Ils sont confiants, ils se pensent maîtres de leur destin, puis est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Puis là, il se passe de quoi? Ça dit un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon qui se déchaîne sur l'île. Donc, un vent important. Donc, si on nomme un vent, c'est parce qu'il doit être assez fort. Donc, c'est un vent qui était excessivement fort. Un vent qui arrivait de l'opposé, donc qui arrivait du nord-est, qui ne poussait pas vers l'île, mais qui poussait dans la direction contraire, qui se déchaîne sur l'île. Un vent qui est excessivement fort. Un vent, puis là, on va voir... Puis là, on va sauter un bout, mais ce qu'on voit, c'est que les marins essayent de faire plein de manœuvres pour essayer de contrôler le navire, mais finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à faire, puis le navire est presque, il se laisse abandonner, il se laisse emporter par le vent. On voit verset 17, c'est ainsi qu'on se laisse emporter par le vent. Donc, il y a un vent très fort, sont violemment battus par la tempête, le verset 18. Et au point qu'ils vont jeter des choses à la mer, et donc ils essayent juste de minimiser les détails. Ça dit le verset 20, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. » C'est quelque chose, là. Ils sont dans une tempête, sur un bateau de fortune, un petit bateau, puis là, tu sais, c'est pas un bateau comme on voit aujourd'hui. Puis là, ils sont dans cette tempête-là, au point que Paul, Luc qui a écrit, ils disent, on a perdu toute espérance de nous sauver. Donc, même Luc, qui écrit, qui est honnête, qui avait eu, en toute humilité, il dit, je pensais que c'était terminé. Tous les passagers pensaient que c'était la fin, puis on allait couler, puis on allait périr. Donc, c'est rendu à ce point-là, une tempête terrible. Si on avait un ouragan, donc ils sont comme dans un ouragan, puis ils se retrouvent sous un ouragan. As-tu déjà vécu ça, André, dans ton bateau? Je parlais, à cette fois, on a un membre qui était dans la marine avant, puis il disait, as-tu déjà vu ça? Je dis, oh, oui. Lui, ça ne le fatiguait pas, mais moi, ça m'aurait fatigué. J'aurais été comme Luc, j'aurais été très inquiet de se sentir impuissant, de sentir que tu ne vois pas le soleil, tu es simplement battu par le vent, tu n'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas. Puis tu es dépendant, tu te dis éventuellement, il va arriver de quoi, puis on va couler. C'est un peu le sentiment qui est général dans le bateau. Puis c'est un sentiment de désespoir que les gens ont. Puis pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu va décider d'intervenir par Paul. Dieu va se manifester à Paul, puis montrer, même si cette situation-là semble désespérée, bien, Dieu est encore là. Puis Dieu s'adresse à Paul. Puis Paul, à quelque part sur la mer, il va parler aux gens, puis il va leur dire, au verset 21, c'est-à-dire, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, donc les gens n'ont pas mangé, sont fatigués, désespérés, affamés, Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Quel genre de façon, de ton que vous pensez qu'il y avait? Est-ce qu'il dit... Je vous l'avais dit. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ce ton-là? En fait, on ne sait pas, mais probablement pas. Tu sais, une façon de dire, tu sais, au plus tôt, on voyait que dans le texte, les gens se pensaient maîtres de leur dessein. Ils pensaient qu'ils étaient en contrôle. Puis là, Paul leur avait dit, je pense que vous n'êtes pas tant en contrôle que ça. Puis là, c'est un peu leur amener un peu à considérer que vous vous pensiez en contrôle. Finalement, vous ne l'étiez pas. Puis maintenant, je vais vous amener la solution. Ce n'est pas vos propres moyens, vos propres forces. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Puis il va leur parler évidemment de Dieu qui s'est manifesté à lui via un ange. Il dit, maintenant, le verset 22, « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. » L'expression « prendre courage », je la trouve intéressante. On est dans une situation désespérée. On est d'accord? Ça va pas bien, le navire est dans la mer, il fait noir, il vente, c'est un ouragan, c'est difficile. Puis Paul leur dit, je vous invite à prendre courage. Je vous exhorte à prendre courage. Le mot prendre courage, on le trouve dans Jacques, chapitre 5, le verset 13, qui dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Donc, Paul, ce qu'il leur dit, maintenant, je vous exhorte à être dans la joie. C'est ce qu'il dit à ces gens-là qui sont certainement découragés, qui sont sans espoir. Paul leur dit, maintenant, soyez dans la joie. C'est quand même marquant, là. Tout le monde est désespéré, puis Paul leur dit ça. Pourquoi? Pourquoi être dans la joie? Pas parce que Paul, il va lui-même calmer la tempête, mais parce que Paul, il a eu Dieu lui a adressé la parole par un ange, puis il a assuré qu'il allait rester en sécurité. Puis il va leur dire pourquoi. Il dit un ange, verset 23, du Dieu à qui j'appartiens. Donc, Dieu est encore là, Dieu est encore souverain. Un ange du Dieu à qui appartient, que je sers, m'est apparu cette nuit. Donc, il y a un ange qui est apparu à Paul, puis qui lui a dit, Paul, ne crains point. Paul, probablement, Paul est un homme comme vous et moi. Des fois, on le voit comme un super surhomme. Paul avait certainement des craintes, certainement des soucis. Puis, Dieu le sait, puis Dieu le réconforte, puis il l'encourage. Il dit, ne crains point. Puis, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits dans les Actes, que Dieu s'adresse à Paul, puis il l'encourage, puis il lui dit de ne pas craindre. Dans Actes 18, le verset 9, le Seigneur apparaît en vision à Paul, puis il dit, ne crains point, quand il est à Corinthe. Au chapitre 23, Paul est en procès, le Seigneur apparaît à Paul, il dit, prends courage. Donc, Paul, il avait certainement des inquiétudes, puis le Seigneur lui l'encourage, puis le texte qu'on vient de voir, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Donc, l'ange s'adresse à Paul. Puis il rappelle les promesses, puis le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'il se rende à Rome, qu'il se comparaisse devant César, puis l'ange lui rappelle ce que Dieu a prévu va arriver, même si tu es dans une situation qui semble désespérée. Les projets n'ont pas changé, donc tu peux être dans... Tu peux prendre courage, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, de manière à dire, tout le monde va rester en vie. Il y a différents commentaires. Il y en a qui disent, est-ce que ça veut dire que tout le monde va être sauvé? Je ne suis pas prêt à aller jusque-là, mais tu sais, certainement, il y a personne qui va mourir dans les 276 personnes. Donc, c'est ce que l'ange a annoncé à Paul à ce moment-là. Puis Paul a entendu ça, il est devant ces hommes-là qui sont désespérés. Puis il a dit, vous pouvez être dans la joie, puis moi, j'ai confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. La situation semble désespérée, mais j'ai confiance en Dieu. Dieu m'a dit que ça allait être correct. Dieu m'a dit qu'on allait, tout le monde allait survivre. J'ai confiance en Dieu que ça va arriver comme ça. Donc, Paul, il met sa foi, il ne met pas sa foi sur lui-même, évidemment, il met sa foi sur Dieu qui lui a dit qu'est-ce qui allait arriver, puis il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bel exemple de foi dans une situation qui est désespérée. Paul se manifeste comme un homme, une foi encore plus forte, puis il encourage les gens qui sont là. Quatrième point, Paul, un homme désintéressé. On poursuit le texte. On va un petit peu plus loin, verset 27, ça nous dit, la 14e nuit. Donc, Paul a fait ces choses-là, mentionner aux gens ça, rassurez-vous, prenez courage. Puis, ça n'arrête pas, le vent n'arrête pas instantanément. Là. Le vent continue, la promenade à noirceur, la tempête se poursuit. Encore quelques temps, le texte ne dit pas exactement à quel moment qu'il l'a mentionné. La 14e nuit, pendant qu'ils sont continués d'être ballottés sur l'Adriatique, puis là, on se rend compte qu'on s'approche de la terre. Les matelots se rendent compte que la terre est proche. 20 brasses, 15 brasses, donc on se rapproche d'un endroit où il y a de la terre. Donc, on est tout près de... D'autres, ils ne savent pas qu'ils sont tout près de l'île de Malte, parce qu'ils sont complètement perdus, puis ils se laissent balloter. Mais ils sont tout près de l'île de Malte. Donc, sont à cette situation-là. Ils vont faire des manœuvres. Puis là, ils attendent le jour, verset 29, ça dit qu'ils attendent le jour avec impatience, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire. On voit le cœur de l'homme ici. Il y a une opportunité de s'en sortir. Il y a plein de passagers, les matelots, c'est eux qui peuvent faire des manœuvres, puis sont tout prêts, puis on va essayer de se sauver, puis les autres, ils s'arrangeront. Fait qu'on voit vraiment le cœur des matelots qui pensent uniquement à eux, qui sont, ça dit que Paul est un homme désintéressé, les matelots sont pas du tout désintéressés, ils pensent à leur propre situation, puis ils pensent à s'en sortir. Mais Paul s'en rend compte, puis Paul va parler aux centeniers, aux soldats, puis il dit, le plan de Dieu, c'est que tout le monde survive, c'est tout le monde se rende sur l'île, donc s'ils s'échappent, c'est pas ce que Dieu a prévu. Puis là, le centenier va mettre sa confiance énormément dans Paul, puis il va juste dire, on coupe les cordes de la chaloupe, donc on est dans le bateau, puis ça va arriver comme Paul a dit, où on va faire naufrage. Donc Paul, à ce moment-là, il va exhorter tout le monde à prendre la nourriture. Il sait que ça fait 14 jours que les gens ne mangent pas. Il va exhorter tout le monde à se nourrir. Il va le faire avec confiance. C'est intéressant. Encore une fois, les gens sont continus. Tu sais, oui, Paul leur a parlé, mais ils sont fatigués, sont affamés. Puis Paul se présente au milieu d'eux, puis il va rendre grâce à Dieu. Il va remercier Dieu pour ce qu'il leur donne. On est dans une tempête, mais on a de la nourriture, puis il va remercier Dieu pour ça, il va manger, puis il va encourager tout le monde. Il sait que les gens ont besoin de force pour pouvoir se rendre à destination. Donc, Paul va encourager tout le monde. Après ça, on va jeter la cargaison. Donc, les gens sentent que ça s'approche, puis ça va être comme Paul l'a mentionné. Donc, ça nous dit, on poursuit la lecture, puis là, je vous l'ai dit, on y va quand même rapidement. Il rencontre une lance de terre, il s'approche de terre à ce moment-là. Donc, ils vont réussir à arrêter le bateau. Donc, il y a de la terre, donc ils sont tout près de l'île. Ils ont réussi à être arrêtés, donc ils sont en presque sécurité à ce moment-là. Puis encore une fois, des gens qui sont pas vraiment désintéressés, qui pensent à eux, les soldats, ils disent on va tuer tous les prisonniers. Pourquoi ils veulent tuer les prisonniers, vous pensez? Pour pas qu'ils s'échappent. Parce qu'il y en a qui s'échappent, il faut qu'ils payent la peine de ce prisonnier-là. Donc, ils n'en prendront pas de chance, on va tous les éliminer. Donc, c'est encore une fois un comportement très égoïste des soldats. Mais le centenier, il veut sauver Paul, il n'est pas d'accord, donc il réussit. À cause que Paul a une attitude désintéressée, finalement, tout le monde est sauvé. À cause que le centenier dit non, on ne va pas faire ça, tout le monde va se rendre sur l'île, comme Paul a dit. Donc, Paul, il reste en vie, puis tous les gens qui sont sur le bateau vont rester en vie. Oh, pardon. Puis, le centenier veut sauver Paul, puis finalement, tout le monde parvint à terre sain et sauf. Donc, 276 personnes qui vivent 15 jours très difficiles dans une tempête, puis tout le monde atteint la terre ferme, puis sont sains et saufs. Donc, finalement, l'histoire finit très bien. Très bien pour tous les passagers. Paul a été un bel exemple, puis tout le monde s'en sort très bien. C'est intéressant. Qui peut me donner quel genre d'application qu'on peut tirer d'un texte de même? Donc, je ne sais pas qui a prévu partir en bateau prochainement, mais on est l'hiver, donc il n'y a pas de personne qui part en croisière prochainement. Donc, il y a certainement des applications qu'on peut tirer d'un texte comme ça. C'est un long récit, mais il y a certainement des applications qu'on peut tirer. Je vous en propose quelques-unes. Paul se démarque, que j'ai mentionné au début. Paul, puis c'est ce qu'on peut retenir d'un texte de même, c'est que Paul se démarque à travers cette situation difficile dans laquelle tout le monde se trouve. Paul est un homme de foi, puis sa foi se manifeste, puis va se démarquer dans la situation dans laquelle il se trouve. Donc, on va voir comment la foi de Paul se manifeste dans les applications qu'on a pour nous. Bon, premièrement, la foi se manifeste en différentes occasions. Il y a différentes étapes au voyage. Il y a une étape au début où ce que ça va bien. Ils font leur petit voyage, ils partent au début de Césarée, ils se rendent à Sidon, le voyage suit son cours normal. Paul se manifeste sa foi à ce moment-là parce que c'est un homme de confiance. Il va bien agir quand ça va bien. Puis il y a des occasions où ce que ça va moins bien. Ils sont dans une tempête où c'est très difficile. Puis Paul se manifeste encore une fois. Donc, les différentes occasions sont des opportunités pour que la foi se manifeste. La foi de Paul se manifeste. Donc, que ça aille bien ou que ça aille moins bien, votre foi en Dieu peut être un outil puis peut se manifester. Donc, on n'est pas, c'est pas uniquement quand ça va bien que notre foi se manifeste, mais même quand ça va moins bien, elle peut se manifester également. La foi se manifeste de différentes manières. De quelle manière que Paul manifeste sa foi? Des fois, en son comportement. Au début, il va être un homme de confiance. Il va simplement être moralement juste. Il va faire, tu sais, il va aller voir ses amis, il va revenir. Donc, c'est un homme de confiance. Ça ne dit pas qu'il parle à ce moment-là. Plus loin, il va donner des conseils. Plus loin, il va se manifester sa foi en encourageant. Fait que des fois en parole, des fois en action. Des fois, probablement qu'il devait aider. Donc, différentes manières que sa foi s'est manifestée. Donc, nous, de la même façon, autour de nous, en 2024, on peut manifester notre foi de différentes manières pour les gens autour de nous. Des fois en parole, des fois en action, des fois en prière. Pour le prier, sa foi s'est manifestée également à ce moment-là. La foi se manifeste à différentes personnes. Il y a différents groupes de personnes sur ce bateau-là. Il y a des prisonniers, comme Paul. Il y a des marins qui sont là. Il y a des soldats, il y a un centenier, il y a différents groupes de personnes, puis Paul, on voit qu'il se tient devant tout le monde. Donc, des fois, il va parler aux centeniers, des fois, il va parler aux soldats, des fois, il va parler à l'ensemble du groupe. Donc, aux différentes personnes qui sont dans votre entourage en 2024, vous pouvez manifester votre foi. Des fois, ça peut être dans votre famille, vos collègues de travail, vos amis. Donc, notre foi, elle peut se manifester à différentes personnes également. Les tempêtes sont des opportunités. Je pense pas que Paul voyait la tempête. Évidemment, ça devait être une situation difficile, mais Paul a vu ça comme une opportunité, puis s'est manifesté comme un homme de foi à travers cette tempête-là. Donc, c'est sûr que dans notre vie, on souhaite que tout aille toujours très bien, que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais des tempêtes vont arriver pour nous à un moment ou un autre. D'une certaine façon, on en voudrait le moins possible, mais des fois, Dieu permet que ça arrive. Bien, voyons ça comme une opportunité de manifester notre foi, une opportunité de bien se comporter, une opportunité de montrer qu'on fait confiance à Dieu qui nous place dans ces situations-là. Dieu se fait parfois attendre. C'est bon que tu aies rappelé. Ça a été 14 jours. Peut-être que, certainement, on peut penser que Paul y priait le jour 1 dans la tempête, que ça se calme, puis finalement, ça l'a pris un certain temps avant que le bateau échoue, puis que la fin soit positive. Donc, soyons patients. Des fois, Dieu nous place dans des tempêtes, des difficultés, puis on aimerait que ça se règle tout de suite, que ça soit un peu comme le Seigneur quand il calme la tempête, qu'il se lève, qu'il parle, c'est fini, puis là, on est calme, puis on... Mais des fois, Dieu fait pas les choses comme ça. Dieu, des fois, il nous laisse dans notre tempête, dans nos difficultés. Il se fait attendre, il n'est jamais en retard. Je tiens à rappeler ça. Il ne faut pas voir Dieu qui est... Dieu, il sait exactement notre situation. Des fois, à nos yeux, on a l'impression qu'il se fait attendre, mais Dieu, il n'est jamais en retard, puis il va agir au bon moment. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'un naufrage peut parfois être un succès. Au début, quand je préparais le message, je me disais, c'est un... Le titre que je voulais donner, c'était « Un naufrage réussi », parce que c'est des gens qui sont sur une tempête, puis finalement, là, il y a un naufrage qui arrive, puis c'est positif, ça finit bien. Puis, justement, je suis allé avec un autre titre, mais c'est une réflexion intéressante. Des fois, on pense que Dieu, des fois, il n'est pas... Quand on réussit des choses, tu sais, quand des choses qu'on va faire, des accomplissements, on va remercier Dieu pour... le fait qu'il nous accompagne, puis qu'on a du succès dans nos entreprises, dans nos actions, nos activités. Mais des fois, on peut vivre des échecs. On va tous en vivre de différentes façons. Puis Dieu, des fois, permet des échecs. Puis les échecs, c'est pas négatif nécessairement. Ça peut être un succès aux yeux de Dieu. Dieu, des fois, nous permet de vivre des naufrages dans notre vie. Puis voyons ça, des fois, comme un Dieu souverain qui nous permet de passer des situations comme ça. Puis essayer d'avoir une attitude que de tourner ces échecs-là qu'on va vivre dans notre vie comme des succès, parce que c'est Dieu qui nous place dans cette situation-là. Puis, évidemment, en terminant, ayons-nous aussi cette même confiance en Dieu. Je rappelle ce que Paul a dit, « Rassurez-vous, verset 25, c'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » De la même façon, soyons des hommes et des femmes qui ont cette confiance-là, qui manifestent cette confiance-là à Dieu, à travers toutes les situations dans lesquelles on est pour l'année 2024. Donc, on va terminer par un mot de prière. Notre Dieu, on est On te remercie pour ce long texte, ce long périple en mer que Paul et les passagers ont vécu, dans lequel Paul s'est distingué. Puis Seigneur, on ne sait pas, on est encore au début de l'année 2024, on ne sait pas les projets que tu as pour nous cette semaine, ce mois-ci, cette année-ci. On ne sait pas si ça va être une période positive ou une période plus difficile. On sait, Seigneur, que tu permets qu'on traverse des tempêtes, qu'on traverse des difficultés. Puis, Seigneur, aide-nous à travers toutes les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, à être des hommes et des femmes de Dieu qui se démarquent parce qu'ils se comportent bien, qui parlent bien, qui annoncent ton nom, qui sont des gens qui manifestent leur foi à travers toutes circonstances. Seigneur, c'est ce que Paul a fait à travers ce naufrage en bateau, puis c'est ce qu'on veut faire également dans nos vies pour ce que tu places devant nous, pour les situations que tu places devant nous pour les prochains moments de nos vies. Donc, on veut utiliser l'exemple de Paul, Seigneur. Merci pour ce temps qu'on a passé dans ta parole. Ma prière, c'est que ça puisse être un encouragement, que ça soit utile pour chacun d'entre nous. Puis on prie de nous bénir, de nous accompagner durant cette semaine. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.